Bienvenue à tous au jardin de Saint-Amand. Donc ici, je fais de la permaculture.
Cédric Cucharec nous accueille dans son jardin à Machement.
Qu'est-ce que la permaculture? À quoi ça sert? Comment éviter les pesticides en agriculture?
En décembre, nous sommes allés rencontrer Cédric Cucharec pour répondre à ces questions.
On vient d'arriver sur le jardin de Saint-Amand. Devant nous, il y a un panneau qui explique vente de légumes de saison, production naturelle, zéro pesticide, une pépinière, plants de légumes, aromatiques, fleurs, et des formations, initiation à la permaculture taille.
J'ai commencé à faire la permaculture, je me suis installé en juillet 2019. C'est ma deuxième vie. J'ai été vigneron pendant 20 ans dans le sud-ouest de la France. J'ai fait un BTS en viticulture et œnologie. Je suis resté là-bas pendant 20 ans, j'ai été vigneron pendant 20 ans. Et en fait, j'ai arrêté pour la raison principale, c'est l'excès de produits phytosanitaires. C'est tous les produits qu'on va utiliser pour éliminer tout ce qui est gênant, entre guillemets, pour l'agriculture conventionnelle. C'est-à-dire les herbicides pour l'herbe, les pesticides pour tout ce qui est maladie. Donc, commençant à avoir des problèmes de santé liés à ça et voyant tous les problèmes de santé autour de moi, j'ai arrêté mon métier et j'ai déménagé carrément. Alors bon, j'ai pas déménagé n'importe où, Machemont, c'est mon village d'origine. Donc je me suis installé en 2019, c'est pas encore très très vieux, hein, sachant que quand on récupère un terrain et pour avoir des résultats en permaculture qui commencent à marcher sérieusement, on peut compter au moins 5 ans. C'est un minimum. J'ai une toute petite surface, je cultive à peu près sur 2000 m² de terrain, donc 0,2 hectares. Hein. En agricole, ça n'existe pas. Hein. 2000 m² de terrain, c'est l'équivalent d'un jardinier amateur, presque. Bon, qui est dans son jardin à plein temps. Mais ça représente absolument rien pour un agriculteur conventionnel. Donc, le potager par ici. Des arbres fruitiers un peu partout, parce qu'en fait, j'ai acheté la maison, moi, il y a presque une dizaine d'années. Ça appartenait à des personnes âgées, hein, bien sûr. Et comme très souvent à l'époque, on plantait pas beaucoup d'arbres d'ornement, on plantait beaucoup d'arbres fruitiers. Donc j'ai eu la chance d'acheter et de m'installer sur quelque chose où j'avais déjà de la production de fruits très sérieuse, puisque bah, par exemple cet arbre-là, il doit avoir 70 ans, hein. Il produit toujours très bien. Donc ça, gros avantage pour moi quand je me suis installé.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi consiste la permaculture ?
Le grand principe de base, c'est qu'on s'inspire de la nature. Et le but du jeu dans un jardin en permaculture est d'avoir le plus de biodiversité possible. Donc l'ensemble des êtres vivants sur un lieu donné, que ce soit végétal, animal, y compris les insectes, ni végétal ni animal, les bactéries et les champignons. La base de la vie du sol. Sans bactéries, sans champignons, le sol ne produit absolument rien. Donc moi, le but du jeu, c'est d'avoir des sols les plus naturels possibles. Donc pour être le plus naturel possible, vous voyez par exemple devant, on fait ce qu'on appelle des planches permanentes de culture. Vous voyez, c'est bien délimité, hein, surtout que là j'ai paillé avec des feuilles, donc on voit bien la différence. Le but du jeu est de cultiver toujours sur la planche et de marcher toujours dans l'allée. Si tout va bien, vous reviendrez dans 10 ans, le jardin n'aura pas changé du tout. Alors avec un peu de chance, j'aurai encore plus de biodiversité, hein, puisqu'au fur et à mesure ça se met en place. Mais normalement, je cultiverai toujours entre ces deux planches et je marcherai toujours entre les planches où il y a beaucoup moins de place. Pourquoi ? Parce que quand on marche sur un sol, on le tasse. À l'échelle humaine, on le tasse raisonnablement, mais on le tasse quand même. Surtout des journées comme en ce moment où le sol est bien humide. Donc plus le sol il est humide, plus on va le tasser facilement. Quand c'est avec des tracteurs ou des engins lourds, c'est encore pire, forcément. Plus on va tasser le sol, moins le sol sera poreux. Moins il est poreux, moins il y a de rétention en eau et moins il y a de rétention en air. Et l'eau et l'air, c'est la base de la vie. Je ne retourne jamais le sol, c'est-à-dire pas de labour ou pas de bêchage, surtout pas à des grandes profondeurs. Quand je travaille le sol, je le travaille vraiment sur 5 cm à la surface. Pour la simple et bonne raison, c'est que toutes les bactéries et les champignons qui vont vivre dans le sol, ceux qui vivent en profondeur, sont incapables de vivre à la surface et ceux qui vivent dans les 5 premiers centimètres, sont incapables de vivre en profondeur. Donc si tous les ans je laboure et que je retourne le sol, j'ai à peu près détruit 80% de tout ce qui pouvait vivre dans mon sol en une seule fois en fait. Là, je parle surtout de la biodiversité invisible. Hein. On ne parle pas des vers de terre. Hein. Le ver de terre, même si vous le mettez en profondeur, il va réussir à ressortir. Mais le ver de terre, c'est qu'une infime partie de la biodiversité du sol. Hein. C'est-à-dire que si on prend l'ensemble du vivant dans un sol, 60% de ce qui représente la masse du vivant du sol, c'est les bactéries et les champignons. C'est-à-dire tout ce qu'on ne voit pas.
En plus de la vie du sol, c'est tout votre jardin qui s'inspire de la nature ?
Le but étant de recréer des écosystèmes le plus naturel possible. C'est très 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 compliqué parce que pour avoir beaucoup de biodiversité dans le jardin, il faudrait qu'il y ait beaucoup de biodiversité à l'extérieur de mon jardin. Et ça, ce n'est plus le cas du tout. À tel point que même en créant des îlots où on fait tout pour la biodiversité, eh ben, on n'arrive pas à avoir toute la biodiversité qu'on veut puisqu'elle n'est plus existante à l'extérieur. C'est-à-dire qu'on a souvent éliminé tous les animaux qu'on n'aimait pas, qu'à une période on a même assimilé aux sorcières, hein, les serpents, les crapauds, etc., etc. Les orvées, que tout le monde assimile aux serpents mais qu'il n'en est pas un. Sauf que c'est des animaux qui sont très 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 utiles dans le jardin. C'est peut-être les animaux les plus utiles qu'il peut y avoir dans un jardin en permaculture, parce que par exemple, c'est ceux qui vont manger des limaces. Une année comme cette année où on a eu une pluviométrie absolument record en France et surtout dans le Nord, hein. On a eu 30% de pluie de plus qu'une année normale. On a la population de limaces qui a absolument explosé et on n'a pas vraiment de moyens de lutter contre en permaculture vu que je n'utilise pas de produits pour les tuer et que les animaux qui sont censés les manger sont toujours là. Hein. Je vois quelques orvées dans le jardin, j'ai quelques crapauds dans le jardin aussi, mais ça ne suffit pas. Alors, il y a les hérissons, je pense que tout le monde y a pensé, sauf qu'en fait, c'est une grosse idée reçue. Contrairement à ce qu'on pense, le hérisson mange très très peu de limaces. Le jour où il se met sur les limaces, c'est qu'il n'a plus grand-chose d'autre à se mettre sous la dent, en fait. Donc, il va en manger un petit peu, mais ce n'est pas suffisant pour réguler les populations. Moi, j'ai un couple de hérissons à la maison, ça ne suffit pas. J'ai des poules aussi, hein, alors surtout pour avoir des œufs pour moi, mais que je lâche aussi dans le jardin et qui vont gratter dans le jardin un peu partout. Ça permet de réguler, oui, certains insectes, des chenilles, des choses comme ça. Mais les oiseaux les plus efficaces, il vaut mieux compter sur les merles et les mésanges, qui eux sont sauvages, qui eux sont encore bien présents quand même sur le territoire. Par contre, ils ne mangent pas les limaces. Mais ils vont manger beaucoup d'autres choses. Un seul couple de mésanges, au printemps, quand ils ont des petits, sont capables de manger 200 chenilles par jour. En quelques jours, le prunier il est absolument dépouillé, il n'y a plus aucune chenille dedans. Je n'ai jamais eu de dégâts d'insectes dans mes arbres. Ce qui est plutôt bien, hein, parce que ça c'est pareil, hein, on a beaucoup de mal à réguler la population des insectes maintenant. On a des insectes qui prennent le dessus. En règle générale, les insectes nuisibles, hein, surtout qui se font chasser des champs, puisque là-bas on met pesticides à outrance, donc bien sûr ils viennent se réfugier sur des îlots. Et comme moi j'en ai un, eh ben, ils sont bien chez moi.
Comment est-ce qu'on accueille toute cette biodiversité essentielle du coup ?
Alors, pour accueillir de la biodiversité dans le jardin, c'est un peu comme pour les humains, hein. Si vous voulez qu'ils se sentent bien chez vous, il lui faut le gîte et le couvert. C'est-à-dire de quoi avoir un endroit confortable pour passer l'hiver et dormir, et de quoi manger. Donc les limaces, vous avez bien compris, elles ont de quoi manger à peu près tout le temps, donc elles sont là tout le temps. Par exemple, si on veut des crapauds, des orvées, des hérissons ou des choses comme ça, il faut laisser des endroits sauvages dans le jardin, en fait. Par exemple, au pied des arbres, là, c'est une zone que je ne tonds quasiment jamais, je tonds qu'une seule fois par an. Parce que ça fait un refuge, hein. L'herbe elle est épaisse, là il y a des planches, il y a des bouts de bois un peu partout, il y a même un tas de cailloux qui traînent je sais pas où sous l'herbe. C'est le genre d'endroit où le crapaud va venir se réfugier, où le hérisson il va faire son nid. Et du coup, ils vont rester chez moi. Et donc, il y a un point d'eau aussi, à côté. On va monter un peu, on va aller voir. Parce que donc, je vous ai dit qu'il fallait le gîte et le couvert. Et dans le couvert, eh ben, il y a la boisson. S'il n'y a pas d'eau, alors à cette période-là, ça ne pose pas trop de problèmes. Les insectes ne cherchent pas trop d'eau à cette période-là. Ils sont plutôt endormis. Il n'y a pas grand monde qui cherche de l'eau à cette période-là. Et si vraiment ils en cherchent, il y a toujours des flaques d'eau quelque part. En plein été, Alors l'été dernier, ça a été moins le cas, mais quand même, depuis quelques années, on voit sérieusement le changement. On a des périodes où on n'a plus d'eau du tout dans la nature. Donc le fait d'avoir un point d'eau chez vous, vous allez attirer de la biodiversité chez vous, qui va venir chez vous, des fois, rien que pour boire, parce qu'ils ont vu le point d'eau. Une fois qu'ils auront trouvé le point d'eau, s'ils trouvent autre chose chez vous pour manger et pour dormir, on va dire, bah, ils vont rester. Et moi, c'est exactement ce que je veux. Donc le point d'eau, ici, il est essentiel parce que, bah, vous voyez, on est sur un coteau, il y a la forêt au-dessus. Il faut savoir que des points d'eau en forêt, ça n'existe quasiment pas. À moins qu'il ait été construit par l'homme ou que des sangliers aient trouvé un marais, mais ici, il n'y a pas de marais. Derrière les grands sapins que vous voyez là, il y a le rue de Saint-Amand qui passe, qui traverse tout le village et qui va se jeter dans le mât après qu'il se jette à tout rôde dans l'Oise. Et donc ce rue avec deux étangs qu'il y a derrière là-bas sont les seuls points d'eau qu'il y a dans le coin, sauf qu'ici on a des sapins qui font 25 mètres de haut et que la plupart des insectes ne traversent pas. Pour eux, c'est comme si c'était un mur. Donc si j'ai le point d'eau ici, ils vont rester chez moi. Si j'ai pas le point d'eau, en plein été, ils vont partir, ils vont traverser, ils vont aller de l'autre côté, ils ne reviendront jamais. Donc si j'ai pas de point d'eau, je vais finir par perdre de la biodiversité à une période en fait, l'été, que je ne retrouverai jamais à une autre période. Voilà. Alors après, moi je fais de la permaculture, il y a un point d'eau, mais ce point d'eau-là, il est là uniquement pour la biodiversité. Je n'arrose pas du tout avec. C'est-à-dire que je fais du jardin avec zéro irrigation, même en plein été, en pleine sécheresse et en pleine canicule.
Pourquoi avez-vous des récupérateurs d'eau ?
Alors, j'ai des cuves de récupération d'eau parce que quand je fais les repiquages au printemps, je suis obligé d'arroser au repiquage. Le repiquage, c'est le fait de faire pousser une plante, par exemple dans la région, les tomates, les poivrons, les courgettes, encore bien que les courgettes, on n'est pas obligé, mais c'est des plantes qui sont issues de pays tropicaux, d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, et donc on n'a pas vraiment le climat adapté pour les faire pousser chez nous à la base. Donc il faut les démarrer assez tôt dans la serre que vous voyez derrière là-bas. Donc c'est une petite serre, hein, c'est pas une serre de production, hein, c'est vraiment une serre pour faire pousser les légumes en tout début de saison, pour faire pousser les plants. Et une fois que les plants sont prêts, arrivés au mois de mai, quand on est sûr qu'il va plus geler, alors là on les met dehors. C'est un petit traumatisme pour la plante de se faire déplanter du pot et de se faire planter à l'extérieur. Si vous ne l'arrosez pas du tout, c'est compliqué. Et s'il n'y a pas une seule goutte d'eau pendant un moment, il y a de fortes chances qu'elles ne partent pas. Il y en a qui vont partir dans le tas, hein, mais ça peut être compliqué. Donc si vous le faites pour vous, chez vous, bon, bah, à la rigueur, vous n'êtes pas obligé d'arroser, poussera ce qui poussera. Moi, je n'ai pas trop le choix, j'ai un peu une petite obligation de résultat, même si cette année, j'ai fait zéro tomate. Voilà. Enfin, zéro. On fait 3 kilos de tomates, à la place de entre 500 et 800 kilos, quand même.
Comment faites-vous pour ne pas utiliser l'arrosage ?
On essaye d'avoir les plantes le plus adaptées possible au manque d'eau. C'est-à-dire que déjà, on sélectionne les variétés à la base. On essaye de ne pas prendre toutes les variétés commerciales qui ont été sélectionnées pour des cultures essentiellement en serre, des cultures presque toujours irriguées. Donc c'est des plantes qui, depuis leur création, ont toujours eu toutes les conditions optimales pour pousser. Donc ça marche très bien quand elles ont toutes les conditions optimales. Si moi je prends ces variétés commerciales et que je les plante dans mon jardin et que je les laisse faire, j'ai un résultat très 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 médiocre. Donc on choisit bien sûr les variétés. Par exemple, vous voyez, j'ai des variétés de courgettes qui s'appellent la blanche d'Égypte ou la grise d'Alger. Donc quand on voit où ça se trouve, on imagine que c'est des plantes qui résistent plutôt très bien aux fortes chaleurs. Alors à la sécheresse, peut-être pas quand même, mais bon, elles doivent résister plus que les variétés de maraîchage classiques. Ces variétés-là sont des variétés que moi j'arrose une fois à la plantation et après je les laisse faire, je n'arrose plus du tout. Une de mes grandes réussites ici, on va dire, c'est les tomates. Il y a quelques années, les anciens vous auriez dit que c'était pas possible dans l'Oise de faire pousser des tomates en plein air, parce que ça produisait une année sur 10, et 9 années sur 10, on avait de l'eau et on avait du mildiou et on ne mangeait pas de tomates. Donc c'est ce qui s'est passé cette année. Voilà, j'ai fait à peu près zéro tomate. Mais bon, c'est pas grave, il y a d'autres choses qu'on produit, hein, il n'y a pas de problème. Et donc pour adapter les plantes le plus possible à la sécheresse, on sélectionne déjà les variétés et on récolte les graines qui ont poussé chez nous. C'est-à-dire que je récolte mes graines de carottes, mes graines de courgettes, mes graines de tomates. Moi, je suis installé depuis 2019. 2019, canicule. 2020, canicule. 21, pareil. 22, pluie méchante. 23, sec et chaud aussi. Le fait de sélectionner vos graines Vous sélectionnez des graines qui sont adaptées à votre terrain. C'est-à-dire que moi ici j'ai un terrain plutôt sableux, plutôt sec, hein, puisque je suis en pente, donc comme l'eau s'écoule par gravité, vous pensez bien que le bas du terrain est beaucoup plus humide que le haut du terrain, donc j'ai un terrain qui sèche très 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 vite. Et le fait de récolter vos graines chez vous, si vous avez eu plusieurs années de sécheresse, la génétique fait que la génération suivante a intégré une résistance à la sécheresse. Alors pour ça, il faut sélectionner le plus beau pied de l'année, celui qui a produit le mieux, celui qui s'en est le mieux sorti. Vous récoltez ces graines, et donc forcément, il y a de fortes chances que la génération suivante résiste très bien. Et si on fait ça tous les ans, on arrive à avoir des graines et des plantes qui sont hyper bien habilitées à pousser chez vous, et qui sont top. Donc moi, je fais des tomates maintenant sans plus aucune goutte d'eau d'arrosage.
C'est quoi les légumes les plus importants que vous avez ?
Les légumes d'hiver, en ce moment c'est ça, hein, les choux, les navets, les radis, les carottes, les pommes de terre, plus les fruits. Donc moi je fais de la vente au panier. Donc la base du panier l'hiver, des pommes, des carottes et des pommes de terre. Et après on agrémente un peu avec ce que les clients aiment bien. Et après le but du jeu c'est d'avoir presque le plus de plantes différentes cultivées dans le jardin possible. Plus je vais avoir de plantes cultivées différentes et moins je vais avoir de problèmes dans le jardin. Pour la simple et bonne raison donc qu'elles vont pomper des choses différentes dans le sol. Mais il faut savoir que les plantes, elles ne font pas que pomper, elles rendent aussi des choses dans le sol. On appelle ça les exudats racinaires. Donc si sur un même endroit vous cultivez toujours la même plante, eh ben vous allez toujours pomper la même chose dans le sol. Et du coup, vous êtes obligé d'amener des engrais pour compenser ce que la plante a pompé la saison d'avant. Ce que les plantes mangent en priorité, c'est l'azote. L'azote pour les plantes, c'est notre sucre à nous. Le corps humain, pour fonctionner, il a besoin de sucre. Bon, bah les plantes, pour fonctionner, elles ont besoin d'azote. C'est la base. Des plantes comme, par exemple, les courgettes, les courges, tout ce qui est cucurbitacé, sont assez gourmandes en azote. Mais, par exemple, les haricots verts, les petits pois et toute cette famille, ça s'appelle la famille des fabacées, les fabacées, elles, fixent l'azote atmosphérique dans les racines et le rendent au sol. Donc si j'ai mis des plantes comme des courgettes, par exemple la première planche que vous voyez où il y a des feuilles là cette année il y avait des courgettes dedans, l'année prochaine il y a de fortes chances que je fasse des haricots ou des petits pois à la place.
Ça veut dire que vous changez les plantes tous les ans ?
Alors, pas toujours, parce que alors, c'est là où la permaculture pose des problèmes à certains agriculteurs, c'est que nous on fait des associations de végétaux. C'est-à-dire que sur la même planche, vous avez plusieurs légumes qui sont produits en même temps. D'où le fait que j'ai 2000 m² de terrain, mais que je produis comme si j'avais un hectare, en gros. C'est-à-dire que sur la même planche de culture, alors moi je ne suis jamais arrivé à ce niveau-là, mais la légende dit qu'on peut aller jusqu'à 9 plantes différentes dans l'année. 9 plantes différentes, d'espèces et de familles botaniques différentes, donc qui vont pomper des choses différentes dans le sol, qui vont ramener des choses différentes dans le sol. Donc là, à ce moment-là, ce que vous disiez tout à l'heure, changer les plantes d'une année sur l'autre, on appelle ça la rotation des cultures. Alors moi, la rotation des cultures, elle n'existe plus. Hein. Là, pour les courgettes, oui, je le sais, parce que je sais que j'avais des courgettes là, mais enfin, des planches de courgettes chez moi, il y en a 4 par an, donc j'ai pas besoin de les mettre dans un ordinateur, je m'en souviens. Donc je ne fais plus de rotation de culture, parce qu'en fait, il y a tellement de plantes qui passent au fur et à mesure du temps, que toutes les espèces, toutes les familles botaniques ou presque vont être représentées. Sur une planche de culture, moi je pense qu'en 4 ans, toutes les familles botaniques sont passées, quoi.
Donc les plantes sont toutes mélangées ?
Là, c'est l'association des végétaux. En permaculture, c'est primordial. En fait, contrairement à ce qu'on peut penser, la permaculture, c'est de la culture hyper intensive. La culture hyper intensive, c'est pas faire 100 hectares de blé d'un seul tenant. C'est pas ça. Là, c'est hyper intensif. Moi, je peux avoir 3 plantes dans la même planche en même temps en production. Là, vous voyez, tout à l'heure, vous voyez le panneau où c'est écrit tomates, échalotes et oignons. Alors, pourquoi les oignons et les tomates ? Déjà, parce qu'elles ne se dérangent pas. C'est-à-dire qu'elles peuvent pousser ensemble sans problème. Et là, en plus, dans ce cas de figure, en plus, elles vont céder. C'est-à-dire que les échalotes, les oignons, les poireaux, l'ail, donc toute la famille des liliacées, a tendance à faire des exudats racinaires. Et les exudats racinaires, c'est beaucoup de soufre. Comme beaucoup de plantes qui sentent fort. Le soufre est un oligo-élément essentiel pour toutes les plantes, hein, mais qui est en quantité infime dans le sol. Et cette quantité de soufre va permettre aux plantes de mieux résister aux maladies. Donc en fait, l'oignon ou l'échalote aide le pied de tomate à lutter contre le mildiou. Alors c'est pas pour ça que j'ai produit des tomates cette année. Hein. Quand c'est trop, c'est trop. Mais quand même, ça renforce les défenses immunitaires des plantes. Comme les arbres. Hein. Même principe, c'est pour ça que le pied de sauge, il est là. Hein. Mettre des plantes aromatiques au pied des arbres, si vous avez des arbres chez vous, vous le saurez, vous allez chercher un paquet d'ail, vous prenez des pions d'ail, vous les plantez au pied, et l'année d'après, en général, c'est mieux au niveau des maladies. Et si vous faites ça tous les ans, c'est encore mieux.
À quoi sont destinées la production ?
La production, le but du jeu, c'est de la vendre. Donc moi, je fais essentiellement de la vente au panier, sans abonnement. C'est un peu le même principe qu'une AMAP, mais vous n'avez pas l'abonnement qui va avec. De légumes uniquement de saison, et c'est moi qui choisis ce qu'il y a dans les paniers. C'est-à-dire que si vous êtes un peu difficile en légumes, vous ne pouvez pas être client chez moi. Ou alors, il faut vous associer avec quelqu'un qui ne l'est pas. Difficile. Je tourne en flux tendu. Je ne cherche plus une nouvelle clientèle, en fait. J'ai un peu baissé la voilure de production l'année dernière. Vu le climat qu'on a eu, c'était plutôt une bonne idée, je pense. J'ai pris un peu plus de temps pour moi aussi, parce que normalement, quand on fait de la permaculture, ce qui est au milieu du projet, c'est pas la biodiversité, c'est l'homme. Si vous voulez faire de la biodiversité chez vous, laissez votre terrain en friche. C'est beaucoup plus efficace au niveau biodiversité que de produire du légume. Ça, il n'y a pas photo.
La permaculture, du coup, faut travailler en réseau. Vous avez un réseau ?
Alors en réseau, j'ai un réseau de clients, on va dire. Des clients très fidèles. Puisque moi, par exemple, à partir du mois de février-mars, j'aurai plus de légumes du tout à vendre. Jusqu'au mois de juin. Et il suffit que je leur passe un coup de téléphone au mois de juin et ils vont tous reprendre les paniers de légumes. Ça, c'est quelque chose qui est très 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 rare dans le commerce. Quand vous avez un commerce, en général, si vous avez un creux de 4 mois dans l'année, ça marche pas, vous pouvez fermer votre commerce, c'est foutu. Donc effectivement, le phénomène de réseau, il est très important. Et j'essaye de rester sur le même réseau. Après, je vends un peu de produits transformés aussi en magasin. C'est une amie à moi qui a un café associatif, qui a fait un petit endroit épicerie dans son café associatif, avec que des producteurs locaux. Donc moi, je fais pas mal de produits transformés, notamment de la confiture, parce que j'ai pas mal d'arbres fruitiers. J'ai pas mal de fruits, donc j'ai un verger aussi dans le centre du village où je fais pas mal de petits fruits rouges, cassis, groseilles, framboises. J'ai beaucoup de pruniers, j'ai beaucoup de choses comme ça. Et le gros problème des fruits, c'est qu'ils arrivent tous à maturité en même temps. C'est-à-dire que quand vous ramassez des cassis, vous ramassez 50 kg de cassis. Et j'ai pas assez de clients pour fournir 50 kg de cassis. Et même si j'avais assez de clients, le client il a pas envie d'avoir 2 kg de cassis dans son panier. Et surtout pas du cassis. Si je lui mets 2 kg de framboises toutes les semaines, au bout d'un moment, il va en avoir marre. Mais 2 kg de framboises, s'il a des enfants, ça va bien se passer. Voilà. Les fraises, pareil, ça se passe plutôt bien. Les cerises aussi. Sur d'autres choses, ça marche beaucoup moins. Par contre, la confiture de cassis, les gens qui y ont déjà goûté savent que c'est quand même très, très, très bon. Alors, je parle du cassis parce que c'est une de mes plus grosses productions, hein, mais c'est pareil pour tous les fruits, hein, notamment les prunes. Hein. Les prunes, j'en vends un peu à certains restaurateurs. J'en vends un peu comme ça en magasin, j'en mets dans les paniers aux clients, ils sont très contents. Mais moi, quand je produis des prunes, juste cet arbre-là, cette année, j'ai ramassé 50 kilos. Et j'en laisse une partie aux oiseaux. Bon, si je pouvais, je ramasserais peut-être tout, hein, mais il faut en laisser un peu aux oiseaux quand même. Et c'est surtout que j'ai pas le temps de tout transformer après.
Les gens qui veulent vous acheter des paniers, est-ce qu'ils sont obligés de venir jusqu'à vous pour acheter les légumes ?
Alors non, pas forcément, je fais de la livraison aussi. Sur Tourotte notamment, j'ai beaucoup de clients sur Tourotte, donc c'est plus simple pour moi et les clients aiment bien ça, hein, être livré à domicile, hein, clairement, on aime tous bien ça. Et moi, le fait de livrer à domicile, ça me permet de me libérer un peu de temps parce que moi, la vente de paniers, en général, se fait le vendredi. Si je dis à tous mes clients, entre 17 et 17h30, vous êtes livrés chez vous, je prends ma voiture, je mets tous les paniers dedans, je fais le tour de Tourotte. À 18h, je suis rentré, j'ai fini. J'ai réussi à travailler tout le reste de l'après-midi sans avoir des clients qui arrivent toutes les demi-heures. C'est beaucoup plus simple pour moi comme ça, et c'est plus simple pour les clients aussi.
Est-ce que vos légumes sont votre seule source de revenus ?
Non, la vente de légumes n'est pas ma seule source de revenus. C'était le projet de base dès que je me suis installé. Le but du jeu n'était pas de faire que du légume, parce que c'est très difficile de vivre que de la production de légumes, hein, même quand vous êtes en maraîchage classique ou en agriculture générale. Donc il était hors de question pour moi de mettre tous mes œufs dans le même panier. En même temps, c'est encore un des principes de la permaculture. On ne produit pas un seul légume. Bien que les années où ça marche bien, si je faisais que des tomates, je gagnerais peut-être mieux ma vie, hein, parce que c'est un produit qui a une valeur ajoutée un peu plus importante que des carottes ou des pommes de terre. Donc je fais aussi de la formation, avec de l'initiation à la permaculture et de l'initiation à la taille d'arbres fruitiers. L'initiation à la permaculture, il y a un petit peu de demande, mais depuis un ou deux ans, un petit peu moins. Bon, après, c'est pas quelque chose que j'essaye de développer absolument, je communique pas énormément dessus, mais bon, il y a quand même de la demande. Par contre, je m'aperçois qu'il y a beaucoup de demandes sur la taille d'arbres fruitiers, parce que les gens voient qu'ils ont des arbres fruitiers qui sont très vieux chez eux et qui commencent à casser de partout. En fait, ils cassent juste parce que les branches sont trop grandes et que les années où il y a trop de poids avec un coup de vent, bah, ça casse. Alors que si ça avait été taillé, ça n'aurait pas cassé, hein, l'arbre serait toujours là. Donc ça, il y a pas mal de demandes, donc ça j'en fais un petit peu. Puis voilà quoi.
Nous étions au jardin de Saint-Amand, à Machemont, pour en savoir plus sur la permaculture.
Ce reportage a été réalisé par
Ryan,
Alizé, Janelle,
Lilou,
Gabriel,
Jeanne,
Jean-Antoine.
Un groupe d'élèves de 3e du collège de Tourotte, dans le cadre d'un atelier en partenariat avec Graphite et l'espace culturel de Tourotte, avec la participation du CPIE de l'Oise. Merci à Cédric Cucharec, maraîcher, aux élèves et à leurs professeurs, Madame Poirier et Madame Brochot. Merci également à Sarah Bonenfant du CPIE de l'Oise et à Émilie Safon de l'espace culturel de Tourotte.
Retrouvez ce programme en réécoute sur graphite.net.